La pandémie actuelle nous pousse à la réflexion. Tout le monde, d'ailleurs, doit réfléchir, chrétien ou pas. Hein. Devons-nous changer notre mode d'alimentation, de production agricole, de déplacement, de travail, etc. Que vaut finalement une société fondée sur la consommation? La mondialisation est-elle si favorable à l'humanité? Enfin... Et dans le domaine de la foi, Dieu lance-t-il un message d'alerte quant à la spoliation humaine de sa création? Par cette pandémie, ce virus est-il un châtiment de Dieu contre l'oubli qu'on a de lui? Un cinglant rappel à l'ordre? Ou encore, est-ce que c'est un appel à se dégager du tourbillon de notre siècle pour se tourner vers lui? Ou alors, encore, une autre question, approcherions-nous de la fin du monde? Beaucoup de questions se posent à l'occasion de ou provoquées par cette pandémie du virus. Mais on a la mémoire courte. Lors de la pandémie du sida, je me souviens du même genre de questionnement ou de conclusion, parfois à l'emporte-pièce, à ceci près qu'on liait la maladie, alors je ne sais pas si on peut parler de pandémie du coup, on liait la maladie à un certain mode de vie que l'on tenait, et que l'on tenait un discours, le discours du châtiment beaucoup plus fortement que pour le Covid-19. Je me souviens aussi, dans un tout autre genre, des prophéties apocalyptiques échafaudées sur fond de guerre froide, attribuant, alors bien sûr, hein, le beau rôle à l'Occident et le mauvais rôle, Gog et Magog pour les connaisseurs, à l'URSS d'alors. On était à la fin du monde, selon certains. Eh bien non. Sans parler du nazisme, dont le chef Hitler a fait figure d'antichrist eschatologique, donc de le dernier, celui de la fin, pour bon nombre de chrétiens. Là encore... C'était des conclusions hâtives. Alors, les questions que nous pose la pandémie actuelle, moi je dis, elles ne sont absolument pas nouvelles en fait. Et puis, je pense aussi qu'on fait preuve de courte vue. Qu'une population entière soit décimée par un virus, comme dans certains pays d'Afrique, qu'il y ait des drames terribles, des morts atroces, pourvu que ce soit loin. Alors on jettera un regard triste, compassé sur ces pauvres gens, sans aucune question sur la souveraineté de Dieu. Mais que l'on soit soi-même touché, qu'un proche vienne à décéder à cause d'un virus aussi, et là Dieu est interrogé, questionné, accusé, on ne comprend pas pourquoi il permet cela. Qu'il le permette pour les gens au loin ne nous avait jusque-là pas dérangés. La question que nous pose, ou les questions que nous pose la pandémie actuelle, sont légitimes. Et nous aurions déjà dû nous les poser, tout simplement, parce que dans notre monde, avec ses guerres, ses cataclysmes et ses drames, il y a mille occasions de le faire. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et il est tout de même vrai que la pandémie actuelle a une ampleur sans précédent qui impressionne par sa gravité. Alors tout d'abord, tentons d'établir, Bible en main, une très brève théologie de la maladie. Puis nous y situerons, mettrons en rapport avec une très brève aussi théologie de la guérison, pour enfin conclure, tenter de conclure. Alors, une brève théologie de la maladie, première partie. Tout d'abord, la création. La création a été qualifiée de bonne par le livre de la Genèse. La Bible nous présente notre monde, d'ailleurs, comme une création de Dieu. Je vous renvoie au livre, excellent livre de Lydia Yeager, « Vivre dans un monde créé ». Nous vivons dans la création de Dieu. Les trois premiers mots de la Bible nous le disent, ou alors je le dis dans l'ordre de l'hébreu, « Au commencement créa Dieu », puis les cieux et la terre, et puis la suite. Donc oui, nous vivons dans un monde créé, et la création que Dieu a faite est bonne, nous dit le récit de la création. Cette formule répétée à plusieurs reprises, à partir du troisième jour de la création, je crois, Dieu vit que cela était bon. Elle est assez répétée dans ce récit pour donner une image positive de la création. C'est ainsi que nous louons le Créateur au spectacle de sa belle et bonne création. Mais selon le même principe, nous tournons vers, ou peut-être contre, ce même Créateur lorsque quelque chose ne va pas dans cette création. Or, le rédacteur de la Genèse ne vivait lui-même pas dans un monde dénué de malheur. S'il a écrit « Dieu vit que cela était bon », ce n'était pas en ignorant les malheurs qui pouvaient le frapper lui-même. Alors, comment la Genèse rend-elle compte de la réalité? Comment explique-t-elle la maladie et la mort? Car c'est bien la fonction de la Genèse que de donner un sens à notre existence. Alors nous sommes légitimes à chercher en elle, dans ce livre, l'explication de ce que nous constatons. Premièrement, la Genèse n'explique pas l'origine du mal. Peut-être décevant pour certains, mais elle décrit simplement son apparition dans la création, et qui, je le rappelle, est bonne. En effet, pourquoi ce serpent, créé par Dieu, se montre-t-il si fourbe dans le jardin d'Éden? Eh bien, la Bible ne répond pas à cette question. Deuxièmement, c'est dans la Genèse que la souffrance, et après elle la mort, fait irruption. Le serpent entraîne Ève et Adam dans la désobéissance, Genèse 3, verset 1 à 6. Adam et Ève, face à Dieu, se mettent à pratiquer la dissimulation, l'accusation, les versets suivants, surtout le verset 12, où alors Adam nous donne un bel exemple du genre, et Dieu ensuite frappe. Pour Ève, grossesse et accouchement pénible, relation conjugale abîmée, pour Adam, travail agricole pénible et retour à la terre à sa mort. Et quelle lecture le Nouveau Testament fait-il de ce récit? Alors Dieu disait « Tu mourras si tu manges de l'arbre interdit » Genèse 2, 17. Et effectivement, Paul va rester sur cette idée lorsqu'il va écrire aux Romains, chapitre 5, verset 12, « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. » Le contexte de l'épître aux Romains est clair, c'est par la colère de Dieu qu'il commence. Paul commence son développement, Romains 1, verset 18, et cette colère de Dieu, elle est visible dans le chapitre 3 de la Genèse. Alors, la maladie, si elle n'est pas citée en tant que telle dans Genèse 3, j'ai lu tout à l'heure les choses qui allaient frapper Adam et Ève, et ce n'est pas vraiment écrit la maladie, plutôt la pénibilité. La maladie fait quand même partie de l'événement. Dans le registre très semblable des bénédictions et des malédictions de la vie et de la mort entre lesquelles les Israélites devaient choisir sitôt le peuple né, les maladies sont bien là, du côté de la malédiction. Alors on a ça notamment dans le fameux chapitre 28 du livre de Deutéronome. Alors je vous cite quelques exemples, la peste, le dépérissement, la fièvre, l'inflammation, la brûlure, etc. Et puis au verset, dans quelques autres versets, j'ai cité le verset 21 et 22, maintenant 27 et 29, ulcères, tumeurs, gales, démangeaisons, délire, cécité, déraison. Et puis il y a un écho qui est fait des sinistres plaies d'Égypte aussi, qui étaient elles-mêmes déjà symboles de la colère divine. Donc oui, la maladie est bien du registre de la réprobation qui a frappé Adam et Ève et avec eux tous leurs successeurs, si je puis dire. Alors, c'est finalement, effectivement, l'humanité tout entière qui est sous le coup de ce péché, comme Paul l'expliquait aux Romains, et qu'elle perpétue ce péché et que la colère divine est perpétuée en quelque sorte, elle aussi. Paul va jusqu'à citer la création, et je cite Romains 8, Romains 8, versets 20 à 22, la création qui a été soumise à la futilité, qui soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Autrement dit, qui souffrent beaucoup. En revanche, la souffrance, la maladie et la mort seront éradiquées du monde à venir, de la maison du Père, de la cité céleste, du paradis. Apocalypse 21.3 est très clair là-dessus, et délivre d'ailleurs un message plein d'espoir. « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Nous y voilà. La souffrance, la maladie et la mort font partie du monde actuel. Elles ne sont pas de la volonté première du Créateur qui a tout créé bon. Leur origine est obscure. Elles ne feront pas partie du monde à venir où Dieu sera présent comme il ne l'est pas encore aujourd'hui. Cela veut dire que la pandémie actuelle et tous les drames qui lui ressemblent font partie du train de ce monde, de l'actualité, je dirais normale, tristement certes, mais normale quand même, de ce monde. Alors revenons à la question du début. Ce virus est-il un châtiment de Dieu contre l'oubli qu'on a de lui, un cinglant rappel à l'ordre? Et plus généralement, peut-on rassembler toutes les maladies sous le thème de la colère de Dieu? Le psaume 73, versets 4 à 12, parmi d'autres textes, nous invite à la prudence pour répondre à cette question. Il rappelle qu'on peut avoir fait beaucoup de mal et ne pas en pâtir pour autant, et la réciproque aussi d'ailleurs. Il faut donc se méfier des conclusions hâtives. La maladie n'est pas forcément la rétribution divine contre un péché, comme Jésus l'a rétorqué à ses disciples à propos d'un aveugle de naissance. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Voilà. Et Jésus leur répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. chapitre 9 de l'évangile de Jean, au début. Cependant, la maladie peut être une occasion de faire une introspection. L'apôtre Jacques le suggère fortement dans son exhortation à prier et, je cite, « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné », Jacques, chapitre 5, verset 15. Il faut en effet se souvenir que la maladie est du registre du péché, mais très généralement, que la première est survenue dans ce monde, la maladie donc, en raison du second, du péché. Lorsqu'on est malade, on est ramené à cette dure réalité de l'humanité et il ne faut pas éviter de s'interroger sur soi-même, sur son état intérieur, sur la paix que l'on a avec Dieu ou pas. Sans être châtiment de Dieu, la maladie peut être occasion de le retrouver. Elle peut aussi être une occasion d'examen personnel suscité par Dieu. C'est les témoignages de Paul qui parlent d'un ange de Satan envoyé par Dieu pour lui éviter de tomber dans l'orgueil. On a ce témoignage dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Mais attention, la maladie en tant qu'inscrite dans le registre de la mort et du mal peut aussi nous éloigner de Dieu. Paul parlait d'ailleurs d'un ange de Satan, c'est dire quand même, hein, tout à l'heure dans le texte de 2 Corinthiens 12 que je viens de citer. La maladie peut nous rendre amers, nous rendre révoltés, comme le psalmiste d'ailleurs qui disait, toujours au psaume 73, verset 13, « C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur ». La maladie n'est pas bonne en soi, elle fait souffrir. Elle diminue les capacités, elle perturbe les relations, elle consomme du temps, elle fait naître de l'inquiétude et même montre un horizon funeste. Elle peut conduire à la colère, à la tristesse, à l'agressivité, à l'égocentrisme et j'en passe. Alors, si la maladie peut être l'occasion de retrouver Dieu, c'est un effet de la grâce de Dieu, c'est grâce à une disposition intérieure sans doute inspirée par l'Esprit de Dieu. Je disais il y a un instant, je faisais remarquer que c'est un ange de Satan dont Paul parle pour parler de sa maladie et qui le frappe donc. Mais Paul, justement, témoigne d'une spiritualité très profonde à ce moment-là. Alors, s'agit-il d'un châtiment? Prenons un exemple. La maladie est-elle un châtiment, hein? Prenons un exemple. Si je sors en hiver en simple chemise, je prendrai froid et je serai malade. Ce refroidissement sera une conséquence de mon acte. De même, on peut dire que certaines maladies sont les conséquences de nos actes. Mais cette relation de cause à effet n'est de loin pas toujours vraie. Le mal est aveugle et peut très bien frapper sans lien avec un comportement. On peut tenir le même raisonnement pour la notion de châtiment. Les récits de l'Ancien Testament contiennent des exemples de maladies causées par Dieu face à des actes qu'il avait réprouvés. Dans l'église de Corinthe, la maladie frappe les personnes qui ont traité avec une coupable liberté, le mémorial communautaire qu'était la Sainte Cène, 1 Corinthiens 11, verset 30. Mais on ne peut quand même pas conclure que toute personne malade subit par là un châtiment divin, comme nous l'avons vu plus haut avec l'aveugle-né, par exemple, où Jésus précisait bien que la question de la cécité de cet homme n'était pas à chercher, la raison n'était pas à chercher dans un acte qui aurait été fait par lui ou par ses parents. Et puis, souvenons-nous du livre de Job. Job se trouve malade et ruiné, sans famille, hein, c'est terrible, sauf son épouse, sans que son comportement ait suscité cela, il n'y a aucune faute qui est décrite chez Job. Mais ses visiteurs, veulent le convaincre qu'il a mérité ce qui lui arrive. Ils veulent établir cette fameuse relation de cause à effet entre le mal dont souffre Job et une faute qu'il aurait commise et qui aurait mérité ce mal dont il souffrait. Et Job réfute cela jusqu'au bout. Et il a raison, d'ailleurs. Même s'il se fait reprendre par Dieu à la fin du livre, mais pour peut-être une raison un peu différente qui serait un petit peu hors sujet d'évoquer plus avant ici. Alors, en plus, la question de la responsabilité se pose. Les auteurs d'un acte ne sont pas forcément ceux qui souffrent de ses conséquences. Faut-il parler de châtiment, alors ? On fait par exemple l'hypothèse que tel ou tel cancer est causé par telle pollution humaine, telle activité sur l'environnement, tel type de production agricole. Ce ne sont pas les fautifs qui souffrent. on peut certes, ou du moins pas tous, on peut certes parler de responsabilité collective, mais la substance de l'évangile conduit plutôt à parler de responsabilité personnelle de chacun. Alors, pas de châtiment ici, mais une triste réalité. Ceci dit, le Dieu souverain ne pourrait-il pas juguler les conséquences de nos actes dans sa toute-puissance ? Alors, peut-être qu'il le fait. Ou alors, son châtiment pourrait-il être simplement de laisser agir les conséquences de nos actes? Mais alors, comment croire en un Dieu d'amour qui pourtant est souverain et laisse souffrir tant de monde? Il en va de ce sujet comme celui du salut chrétien, comme de celui du salut chrétien. Dieu a choisi de nous sauver de la perdition, mais en espérance. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il ne nous place pas tout de suite dans le paradis. Il y a encore ici-bas des luttes, des violences et le mal qui est à l'œuvre. De même, Dieu ne nous promet pas de nous délivrer de suite d'une création abîmée, de nous libérer de suite des chaînes de la maladie. Il y a encore ici-bas des maladies, des souffrances. D'un point de vue tout à fait général, nous l'avons vu, le péché et la maladie vont de pair. Et c'est ensemble qu'ils auront leur solution. Celles et ceux qui pleurent aujourd'hui seront consolés, annonce Jésus dans les Béatitudes, Matthieu chapitre 5. Et puis, le tableau de l'homme riche et de Lazare, Luc 16, verset 19 et suivant, dit la même chose. Cet homme qui est couvert d'ulcères, nous dit le récit de Jésus, qui est pauvre et qui est victime de l'égoïsme de l'homme riche, ne sera consolé qu'auprès d'Abraham, c'est-à-dire au paradis. Alors, peut-être quand même une question qui demeure et à laquelle je n'ai pas de réponse. Pourquoi ? Pourquoi Dieu laisse-t-il le mal agir aujourd'hui et attend-il la fin pour faire régner sa puissance et sa grâce ? Alors, il reste une autre question, c'est celle de la colère ou de la malédiction que nous avons évoquée tout à l'heure, par exemple dans le Deutéronome. Pouvons-nous dire que Dieu manifeste sa colère en faisant tomber une personne malade, et ceci sans qu'il s'agisse de conséquences qui suivraient leur cours ou d'une réalité humaine générale? Eh bien oui, cela peut arriver. C'est bien un ange du Seigneur qui frappa le roi Hérode parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et Hérode, rongé par des vers, je cite, est mort. Acte 12, verset 23. C'est certes pour la fin des temps que la colère de Dieu est annoncée dans le livre de l'Apocalypse, mais elle peut se manifester avant, je vais citer le Romains verset 18 du chapitre 1, elle se révèle du ciel contre toute impiété, déjà maintenant. Ceci dit, n'oublions pas quand même que formellement, le plein châtiment contre le péché, ce n'est pas la maladie, c'est la mort. Jésus a bien expliqué cela. Alors qu'on lui parle d'un drame qui a coûté la vie à des Galiléens, Jésus, alors c'est dans l'évangile de Luc, au verset 13, au début, au chapitre 13, pardon, au début, Jésus répond clairement, je cite, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Fin de citation. Et Paul, l'apôtre Paul, à sa suite, rappelle d'ailleurs que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Alors je conclus ce très très brève théologie ou tentative de la maladie. Le sujet de la maladie est donc visible, enfin c'est quand même assez complexe. Hein. D'un point de vue général, la maladie relève de l'irruption du mal dans la création et aura disparu quand le ciel, la maison du Père, le paradis prendront place. Entre-temps, elle est là, signe de la mort à craindre, tantôt conséquence de nos actes, tantôt instrument divin, tantôt dénué de toute logique, tantôt vraie force du mal. Je passe maintenant à la deuxième partie, une brève théologie de la guérison. Tout d'abord, le sens de la guérison. Dans le récit de l'Exode, après avoir montré sa puissance et sa sainteté, Dieu se présente comme l'Éternel qui te guérit, qui n'infligera aucune des maladies qu'il a infligées à l'Égypte si le peuple l'écoute. Exode 15, verset 26. On constate donc que dès le début de l'histoire d'Israël, c'est le Dieu qui guérit, qui appelle son peuple à lui être fidèle. Je rappelle que le livre de l'Exode, c'est vraiment le début de l'histoire d'Israël, en tant que peuple. Les guérisons que Jésus a opérées ont ainsi été autant de signes de sa divinité, de sa messianité. Jésus a ainsi répondu à Jean-Baptiste qui lui faisait demander s'il était bien le Messie. On a ça dans Matthieu 11, verset 5. Les aveugles recouvrent la vue. Alors Jésus va citer là plusieurs textes d'Ésaïe. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Une scène émouvante illustre cela, c'est la guérison du paralysé, Matthieu 9, au début du chapitre, est parallèle. Jésus lit clairement la guérison qu'il opère à sa capacité de pardonner les péchés, ce qui est une prérogative divine et messianique. Le discours de Pierre, à Jérusalem, lors de la Pentecôte, utilisait aussi les guérisons comme signe de la messianité de Jésus. Acte 2, 22, « Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant par lui toutes sortes de miracles, de prodiges et de signes extraordinaires au milieu de vous. » Fin de citation. Le discours de Pierre, le grand discours de Pierre. Et puis dans la même veine, le Messie annonce une ère nouvelle et en donne les signes, dont la guérison. Le monde est-il marqué par le péché et ses conséquences ? Par la maladie, par la mort qui rôde ? Alors, le Messie va annoncer le royaume de Dieu avec les signes constructifs et vivifiants et bienfaisants qui l'accompagnent. La guérison témoigne de cela. Jésus révèle que Dieu est amour en faisant le bien. Il s'agit bien d'un signe donné au monde. Et le mot « signe » est un mot utilisé dans le grec du Nouveau Testament, ou parfois traduit de cette manière en français. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un signe, et c'est quelque chose qui montre une réalité. Jésus manifeste le royaume de Dieu par des guérisons, entre autres par des guérisons, il y a bien d'autres choses qu'il utilise pour le manifester. Jésus lève le voile sur l'action que Dieu propose à une humanité malade, une humanité qui se perd. Jésus verse un acompte, donne les premiers éléments d'une promesse qui va être bien plus vaste. Les apôtres vont emboîter le pas à Jésus, sur son ordre d'ailleurs. Il, je cite, « il leur donna le pouvoir de guérir des malades ». Matthieu 10, au début, est parallèle dans les Marc et Luc. Et il les a appelés aussi à pratiquer des guérisons à leur tour. Marc 6, verset 13. Ces signes de la messianité de Jésus, les apôtres vont les perpétuer après le départ de leur maître. C'est au nom de Jésus qu'ils vont provoquer des guérisons miraculeuses. Par exemple, Paul et la devineresse, acte 16, et l'épisode cuisant des exorcistes de Séva. Il faut lire ça, acte 19, versets 13 à 17. Où là, il se réclamait de ce Jésus dont Paul se réclame. Et ça, la suite a été assez mauvaise pour eux. Vous le lirez, acte 19, versets 13 à 17. Les apôtres vont eux-mêmes donner des signes du royaume de Dieu, donner les signes du royaume de Dieu que sont les guérisons. Alors, dans le livre des actes des apôtres, il y en a un certain nombre. On peut parler de acte 3, au début, un boiteux, de nombreuses personnes, sans qu'elles soient citées nommément, acte 5, des boiteux encore, acte 8, Saul qui va devenir l'apôtre Paul, qui a été guéri de la cécité, acte 9, verset 17, un paralysé encore, verset 9, un autre, chapitre 9, verset 33, un autre, chapitre 14, verset 10, puis encore d'autres guérisons, chapitre 19, verset 12, chapitre 28, verset 8 et 9. Mais quelle est la place de la guérison dans l'économie du royaume de Dieu? Cet examen très rapide des récits de guérison montre que ces dernières ont eu et ont encore une fonction d'appui, de validation, de validation du message de l'évangile. On l'a un peu senti dans le discours que Pierre faisait dans acte 2 que j'ai cité tout à l'heure. Cette fonction peut être très forte. Les guérisons, tout comme les autres signes, actes de puissance, il n'y a pas eu que des guérisons, mais les guérisons sont quand même la grande majorité des miracles qui sont racontés dans les évangiles. Ces guérisons montrent l'origine divine de l'évangile. À ce titre, elles ont aujourd'hui leur place, tout comme elles l'avaient au début du christianisme. Mais au sein du Nouveau Testament, les guérisons n'étaient pas partout et pas systématiques. Dans son exposé principal de la foi, la lettre aux Romains, Paul ne mentionne pas de guérison. Alors que pourtant, il fait une liste des dons, Romains 12, verset 6, mais il ne cite pas le don de guérison. Il le cite en revanche auprès des Corinthiens, première lettre, verset, 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 28. Mais c'est le seul endroit où il cite des dons de guérison. Cette modestie de la place de la guérison dans les enseignements pauliniens nous aide à rester mesurés quant à la place que nous donnons à la guérison dans notre pratique et notre discours. Il en est de même pour les épîtres de Jean, de Jacques et de Pierre. Alors, il faut revenir un peu à la réalité, fort de l'incontournable constat de l'impact de la pandémie actuelle dans les églises, y compris dans les églises qui prônent la guérison divine. Nous voyons bien que la guérison ne peut être que seconde, au rang des signes du royaume qui viennent parfois, mais pas tout le temps, appuyer le message de l'Évangile. Souvenons-nous que la guérison n'est pas une fin en soi dans l'économie du royaume de Dieu. Le cœur de l'Évangile, c'est le pardon des péchés, la grâce de Dieu et une vie nouvelle. Si une guérison peut conduire à cela, très bien. Sinon, elle est tout à fait accessoire, car de toute manière, la personne guérie mourra un jour, et son sort aura été scellé non par une guérison, mais par une conversion. Alors, que penser de la guérison aujourd'hui? La prière pour la guérison est une preuve d'amour. C'est demander à Dieu un signe du royaume, un signe de l'espérance que l'on offrira à une personne malade. Dieu est bon et la guérison fait partie des signes de sa bonté. Je vais citer une étude biblique que nous avons faite l'année dernière dans le cycle sur l'évangile de Matthieu. Les nombreux récits des évangiles nous disent que la foi est essentielle pour la guérison, celle du malade ou de son entourage. C'est le mystérieux choix du Dieu souverain qui choisit de se mettre à l'écoute de ses créatures pour agir. Alors faisons preuve de cette foi. Fin de citation. Mais attention, je l'ai dit, la guérison n'est pas systématique, elle n'est pas automatique. On n'a pas forcément d'explication à cela, pas plus qu'on en avait pour les causes de maladie d'ailleurs. Et je cite de nouveau cette étude, « Dieu reste Dieu et nous ne lui dictons pas sa conduite au moyen de notre foi. Il ne se plie à aucune de nos lois et guérit qui il veut et quand il veut. » Fin de citation. J'ajoute que notre amour pour les autres ne peut pas se limiter à une simple prière. « Ah, j'ai prié pour ta guérison, au revoir et bonne journée. » Nous ne pouvons pas nous retrancher derrière une guérison demandée à Dieu. Il faut nous-mêmes agir, faire ce qui est à notre portée. Dans le domaine de la maladie, c'est très simple, il faut soigner, aider, soutenir, donner. L'histoire des hôpitaux montre que les chrétiens avaient compris cela. Je cite en particulier les hospices de Beaune. Je vous invite à vous approcher de la philosophie de création de ces hospices de Beaune qui étaient étonnamment modernes pour l'époque. Faisons ce que nous pouvons et demandons le reste à Dieu. Bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas tout et plus d'un médecin lui-même dira qu'il y a des choses qui échappent à la médecine, eh bien, elles n'échappent pas au Seigneur. Alors je conclue sur ces quelques mots sur la théologie de la guérison. Demandons la guérison, sans chantage à la grâce de Dieu. Exprimons notre soumission à la souveraineté divine, sans pour autant taire nos demandes. Reconnaissons la guérison divine comme manifestation de Dieu, sans réduire ses manifestations aux seules guérisons. Ayons une foi réfléchie et structurée, sans pour autant nous fermer à l'irruption dans nos vies d'une guérison divine. Je voudrais maintenant vous proposer une conclusion plus générale à ce sujet que je vous ai proposé, le chrétien et la maladie. Et une conclusion qui est orientée vers la situation actuelle. L'attitude qui sied aux chrétiennes et aux chrétiens en ce moment d'épidémie, c'est l'amour de l'autre. Cela signifie prendre toutes les précautions pour ne pas véhiculer le virus, apporter son soutien humain, matériel, moral et spirituel aux personnes de santé, de service à la personne, je veux dire. C'est aider soi-même des personnes en difficulté en raison de la maladie. C'est prier pour ces personnes. L'attitude à avoir est aussi de garder l'essentiel de l'évangile au centre de la pensée et non le secondaire. L'essentiel, c'est la grâce de Dieu, son accueil du pécheur honnête devant lui. C'est l'œuvre de Jésus-Christ et l'exemple qu'il a donné. Le secondaire, et je vous rappelle qu'il dépend avant tout de la volonté divine, laquelle nous dépasse complètement, le secondaire, c'est la maladie et la guérison. Et puis, prenons soin de l'image que nous donnons de notre Église et de nous en tant que chrétiennes et chrétiens. Notre comportement à la sortie du confinement devra être citoyen et exemplaire. Recommençons nos activités au fur et à mesure des possibilités, sans précipitation. Ne traitons pas à la légère les consignes sanitaires, comme s'il y avait une protection divine qui nous en dispense. Et puis surtout, peut-être, soyons accueillants pour toute personne. Je vous remercie.